Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire des représentations du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, en Occident. Et le meilleur connaisseur de ces représentations est l'historien John Tolan, dont j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce matin. Bonjour John Tolan.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nantes et vous êtes l'un des chercheurs et vous menez ces travaux de recherche dans le cadre du projet international financé par le Conseil européen de la recherche, et vous travaillez sur la place du Coran dans la culture européenne. C'est dire que nous sommes ravis de vous accueillir et vous allez nous parler tout au long de l'émission de ces différentes représentations, de cette réception de la figure du prophète de l'islam en Europe d'une manière générale. Et d'emblée, à titre personnel, si tant est qu'il me soit permis de donner mon avis, j'ai été très sensible au travail que vous faites pour déconstruire l'opposition entre occidental et musulman. Et vous dites que ceci n'a pas beaucoup de sens et que cette opposition est foncièrement impropre, à même titre.
Oui, absolument. Impropre d'abord parce qu'évidemment, Occident et Islam ne seraient opposés, d'autant plus quand on pense que souvent on classifie le Maghreb du point de vue européen comme l'Orient, quand Maghreb veut dire Occident en arabe, sans parler des mélanges donc dus à l'immigration, à la mondialisation de ce dernier siècle ou deux siècles. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, que c'est une histoire commune qui monte beaucoup plus loin, et que non seulement l'islam fait partie de l'Europe depuis que les troupes arabo-berbères de Tariq sont arrivées en 711 en Espagne, il y a une présence de l'islam et des musulmans de manière ininterrompue en Europe depuis 711. Mais ça, ce n'est pas le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est vraiment la présence de l'islam et du prophète de l'islam dans la culture européenne, à la fois comme repoussoir souvent, mais aussi objet de fascination, objet d'interrogation et parfois modèle ou contre-modèle. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre un peu curieux et quelque peu osé de Mahomet l'Européen. Mahomet, le sujet n'est pas Mohammed, personnage historique et prophète de l'islam, mais c'est plutôt Mahomet, l'image ou les images qu'on dresse les Européens, et cette figure fait partie de notre imaginaire commune, et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Mahomet l'Européen.
Et vous dites si bien que je distingue entre Mohammed le prophète de l'islam et Mahomet cette figure de l'histoire, et que c'est ainsi qu'elle est consacrée. On va voir tout au long de l'émission, mais c'est tout aussi dans votre ouvrage édité chez Albin Michel, Mahomet l'Européen, que ça va évoluer. D'emblée, c'est plutôt l'idole. Ce qui est curieux, c'est qu'il est une idole. Et par antonomase, Mahomet, c'est une idole. C'est l'idole des Sarrasins.
Absolument. Donc, c'est une image curieuse qu'on trouve notamment dans des textes du XIIe siècle, à la fois en français et en latin, autour des croisades. Quand on imagine l'ennemi des croisés, ces Sarrasins, on imagine qu'évidemment, ils sont dans l'erreur religieuse. Et cette erreur, on imagine donc à l'image du paganisme antique. Parce que ce sont des auteurs, les auteurs de ces chroniques, à propos de la première croisade notamment, sont des moines souvent, qui ont une éducation en latin, qui ont lu Ovide, Virgile, etc. Donc ils ont une image, une idée littéraire de ce qu'était le paganisme antique, et donc ils collent cette image à l'islam, ou aux Sarrasins, comme ils appellent leurs adversaires. Et on imagine que Mohammed, Mahomet, ne serait pas Anna, mais sera le nom de leur Dieu ou d'un de leurs dieux.
Oui, et à un moment donné, vous dites que même l'appellation sarrasin de Salakénoï des Grecs, c'est parce que les Ismaélites prétendent aussi descendre de Sarah, alors que ce n'est pas vrai.
Absolument. Donc les deux termes sont des. On trouve dans la géographie antique chez les Grecs et les Latins. Sarakénoï serait un peuple dans la péninsule arabique. Ismaélite serait les descendants d'Ismaël. Donc Ismaël, fils aîné d'Abraham et d'Agar. Mais évidemment, du point de vue du récit biblique, Ismaël, c'est le fils illégitime d'Agar, l'esclave. Et c'est Jérôme, bien avant l'islam, qui le premier prétend que ces Sarrasins essaieraient d'usurper la place légitime en se prétendant être descendus de Sarah.
Oui, et donc ces polémiques, ces présentations outrancières dans certains cas, mais c'était de bonne guerre à l'époque, on les trouve aussi dans la culture et notamment dans la chanson de geste, et tout particulièrement dans la chanson de Roland.
Oui, dans la chanson de Roland, il y a trois dieux, une espèce d'anti-trinité, Mahomet, Apollin et Tervagan. Et il y a donc les troupes sarrasines sortent avec à leur tête des bannières sur lesquelles il y a des images de ces dieux. Et on jure par ces dieux. Et en quelque sorte, comme j'ai essayé de montrer, ces dieux chez les Sarrasins jouent dans la chanson de Roland le même rôle que les saints chez les chrétiens, parce que les troupes chrétiennes invoquent les saints, Saint-Pierre, Saint-Denis, Sainte-Marie, etc., et les troupes sarrasins, de la même manière, invoquent les trois dieux.
Parce qu'il faut bien qu'il y ait en miroir, ou en opposé, ou en creux, presque la même chose. Si on a d'un côté des saints, il doit y avoir de l'autre côté l'équivalent des saints, même s'il s'agit d'idoles ou quelque chose de méprisable et de répréhensible.
Oui, absolument. Et l'adoration qu'on voue à ces idoles ressemble assez étrangement au culte des saints en Occident. Mais la différence, comme dit Roland, les païens ont tort et les chrétiens ont droit. Et la preuve, c'est l'issue de la bataille. C'est la victoire que Dieu donne aux chrétiens. Et dans la chanson de Roland, à un moment où Charlemagne combat Baligan, l'émir des musulmans, Charlemagne est sur le point de chanceler et heureusement, il y a l'ange Gabriel qui intervient, qui assure la victoire pour les chrétiens.
Oui, on voit toujours de bon augure et on invoque les puissances célestes et ce que je dis parfois, les phalanges angéliques. Mmh. Et donc là, ces anges sont représentés dans la figure de Gabriel. Poursuivons ensemble, si vous voulez bien, John Tolan. On passe donc de l'idole, ce qui est, pour peu qu'on sache un peu sur quoi est fondée la tradition religieuse islamique, on verra que le prophète n'est qu'un mortel parmi les mortels. Mais comment ça lui a été collé, cette idée d'idole, ou une des idoles, avec y compris Apollon?
C'est assez curieux parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Le troisième de cette fausse trinité, Tervagan, c'est encore plus mystérieux. Personne ne sait d'où vient ce nom. Mais je pense que il y a clairement cette idée d'anti-trinité. Même si c'est jamais formulé en tant que tel, c'est une image anti-trinitaire puissante.
Oui, alors on passe maintenant, il redevient plutôt un homme, mais plus un charlatan et un hérésiarque.
Oui, on a donc dès le deuxième siècle, dans les textes en latin, il y a des biographies de prophètes en vers ou en prose en latin, où on présente Mahomet ou Mohammed comme un hérésiarque, c'est-à-dire le fondateur d'une fausse version du christianisme. Et ce Mahomet, pour tromper son monde aurait fait des faux miracles. Donc, on invente des récits de faux miracles. Par exemple, on dit qu'il avait dressé une colombe à manger des graines de blé dans son oreille et qu'il prétendrait que cette colombe était le Saint-Esprit ou dans d'autres versions, l'ange Gabriel, venu lui faire des révélations.
Alors, en plus de cette fausse colombe qui serait une incarnation usurpée, une représentation du Saint-Esprit, vient manger dans ses deux oreilles, enfin l'une et l'autre. Il y a aussi le taureau, les cornes du taureau, entre lesquelles se trouve son fameux livre Al-Coran.
Oui, il y a cette légende comme quoi il aurait aussi dressé un taureau, il aurait écrit son livre qu'il aurait mis sur les cornes de taureau et que en prêchant au peuple, il dit Dieu va nous envoyer un nouveau livre, mais par les moyens d'un intermédiaire inattendu et arrive ce taureau et tout le monde acclame ce nouveau livre, Révélation de Dieu, et les auteurs du deuxième siècle de préciser qu'il s'agit d'une licence à la débauche, notamment pratiques sexuelles, incestuelles et polygames, et tout ça c'est censé expliquer l'attrait donc de cette nouvelle loi pour le peuple.
Oui, et comme il est hérésiarque, donc fondateur ou initiateur d'une hérésie fausse, bien entendu, une version fausse du christianisme, l'un des instigateurs, c'est aussi, allusion faite au moine Bahira, donc Sergius aussi, oui. Il l'aurait induit en erreur, ou tous deux sont de mèche.
Oui, alors là aussi, il y a différentes versions, mais Bahira, dans la tradition musulmane, c'est effectivement ce moine chrétien syrien qui reconnaît dans le jeune Mohammed, le futur prophète. Ça devient, dans les traditions déjà byzantines, Sergius, un hérétique, chrétien hérétique, qui aurait corrompu ce jeune Mahomet, et les deux auraient forgé ensemble leur hérésie et auraient écrit ensemble ce livre du Coran. Donc là aussi, on dénigre l'islam en l'associant à l'hérésie chrétienne.
Oui, et cette histoire d'hérésie collera à un bon moment à telle enseigne qu'on trouve par exemple dans la Divine Comédie de Dante, dans l'Enfer. Je crois que c'est le chant 8, vers 70, neuvième bulge, huitième cercle de mémoire, mais si je me trompe, vous le corrigez, John Tolan. Et là, on trouve non seulement Mahomet fondu, à cause de cette approche un peu schismatique, et même Ali lui-même aussi est fondu parce qu'il y a un schisme à l'intérieur du schisme, en quelque sorte.
Oui, j'avais travaillé il y a quelques années sur l'image du prophète chez Dante, et Edward Said parle de ce passage, et pour lui, ça montre comment l'islam est autre, est vu comme quelque chose d'extérieur, d'hostile. Mais pour moi, ça montre tout au contraire que l'islam s'est vu par Dante comme une division interne au monde chrétien, que s'il est schismatique, c'est parce qu'il aurait cassé l'unité, briser l'unité du monde chrétien, et Ali subit la même punition parce que lui, présenté comme Dante, par Dante comme à l'origine du chiisme, aurait brisé l'unité du monde musulman. Donc, c'est en tant que schismatique et non pas en tant qu'hérétique, faux prophète, qu'il est puni dans l'enfer de Dante.
Oui, c'est pas le propos aujourd'hui, mais dans cette fameuse histoire des caricatures du journal danois, certains sont revenus parmi les lettrés à la Divine Comédie de Dante en disant que c'était pire en représentation que les fameuses caricatures, mais qu'en réalité, encore une fois, ce n'est pas le propos aujourd'hui, cette même Divine Comédie n'est qu'un pastiche ou un plagiat, ou en tout cas Dante aurait été inspiré par l'épître au pardon, l'épître du pardon de Abul Ala al-Ma'arri, mort en 1057, qui lui a copié le modèle de l'ascension nocturne et de la chevauchée nocturne et de l'ascension céleste du prophète.
Oui, il y a tout un pan de l'historiographie sur la Divine Comédie qui, donc, où les uns prennent position pour ou contre le fait que cet mirage ou voyage céleste de Mohammed serait à l'origine ou au moins l'une des inspirations de la Divine Comédie. Il est de fait, donc, c'est le roi, comme j'ai dit dans mon troisième chapitre, c'est le roi Alphonse le Sage de Castille qui fait traduire d'abord en espagnol une collection de textes arabes sur le mirage. Ensuite, c'est traduit de l'espagnol en latin, du latin en français, tout ça au XIIIe siècle. Et on sait que Benedetto Latini, qui est un des professeurs et ami de Dante, avait lu ce texte. Il est bien possible que ce soit au moins une des inspirations de Dante. Mais effectivement, on voit que ça montre bien que dans ce monde méditerranéen, les idées circulent à travers les divisions linguistiques et confessionnelles.
Oui, en tout cas, c'était la thèse au sens fort et la thèse aussi de doctorat de Miguel Assini Palacios en 1219. En 1919, oui. Donc c'était au premier quart du siècle écoulé, et qui a provoqué un tollé général. Comment se fait-il que Alighieri Dante puisse être inspiré par l'épître au pardon de Abul Ala al-Ma'arri? Mais nous parlons en tout cas de ces différentes représentations et de la réception et la place à la fois du Coran, c'est pas le propos aujourd'hui, mais aussi de la figure du prophète dans la culture européenne. Donc, on progresse. Appesantissons-nous, si vous voulez bien, John Tolan, sur la volonté de Pierre le Vénérable de faire traduire le Coran. Peut-être quelques mots sur la traduction de Quiton, etc.
Oui, alors, Pierre le Vénérable, donc abbé de Cluny, va en Espagne en 1140. Il va surtout faire une tournée des monastères espagnols dépendants de Cluny. Et là, il décide qu'il faudrait une traduction de Coran pour pouvoir mieux combattre l'hérésie des Sarrasins. Donc, il trouve des traducteurs, dont un certain Robert de Catton, un Anglais qui est devenu en Espagne sur les bords de l'Ebre pour apprendre l'arabe et étudier les sciences. Surtout, c'est une férue de l'astronomie, l'astrologie. Et il est embauché par Pierre le Vénérable pour traduire le Coran. Cette traduction, c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il y a le Coran, il y a toute une série de textes à propos de l'islam, dont le fameux Risalat el-Kindi, un texte chrétien, donc anti-musulman, écrit sans doute en Irak au Xe siècle. Tous ces textes sont traduits en latin et ça constitue un véritable corpus à la fois d'informations sur l'islam, mais le but, évidemment, du point de vue de Pierre le Vénérable, c'est de mieux connaître l'ennemi pour mieux le combattre.
Oui, alors ça se passe au milieu même du XIIe siècle, on est en 1142-43. Une risala, puisque vous avez évoqué le terme, est une épître en réalité, ça peut se comprendre comme étant un traité. Là, en l'espèce, c'est un traité apologétique, pour mettre en avant et en exergue les mérites du christianisme au regard de l'hérésie de la religion des Sarrasins. Et donc, petit à petit, les choses progressent. On est toujours dans la polémique. Il y a toujours des idées de type, non seulement la fausse colombe ou le taureau, mais il y a aussi cette idée d'un cercueil dans lequel la dépouille mortelle du prophète est en lévitation.
Oui, oui, tout à fait. On trouve ça dès le XIIe siècle, cette idée qu'il serait mis dans un cercueil en fer dans un temple à la Mecque où il y aura des aimants dans le plafond et donc le cercueil flotte. Et on trouve ça, comme j'ai dit, dès le 12e siècle, et on le trouve à répétition, même sur les maps monde, entre le 14e et le 16e siècle, on trouve la Mecque représentée par ce cercueil flottant.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le professeur John Tolan, nous parlons de Mahomet l'Européen, curieux comme titre. En réalité, il s'agit de l'histoire des représentations du prophète de l'Islam en Occident. John Tolan est non seulement professeur d'histoire à l'Université de Nantes, un historien de renom et un fin connaisseur de ces questions, mais aussi, John Tolan, vous dirigez les travaux relatifs à la place du Coran dans la culture européenne au sein d'un projet international financé, en tout cas commandé par le Conseil européen de la recherche. Nous étions donc en train de parler de ces fausses légendes, en tout cas. Il y a peut-être encore un mot à propos de l'allégation du prophète qui aurait dit à ses disciples, à ses prosélytes, vous êtes l'un des rares écrivains à considérer le prosélyte comme étant celui qui est gagné à une cause et ne pas celui qui en fait. Et pardonnez-moi, je ne voudrais pas apparaître comme celui qui cautionne ou ne pas cautionne un travail, mais je rends hommage à la justesse de la conception et de l'acception de qu'est-ce que c'est qu'un prosélyte. Donc, Mahomet, l'Européen, aurait dit à ses prosélytes et à ses disciples qu'il va ressusciter au bout de 3 jours.
Oui, là on trouve dans différents textes assez tôt cette idée que Mahomet aurait prétendu être nouveau Messie. Et comme le Messie, il prétend qu'il va ressusciter 3 jours après sa mort. Et on insiste dans ces textes sur l'échec, évidemment. Il ne ressuscite pas. Et d'autant plus qu'il son corps sent mauvais. On est obligé de l'enterrer. Ou dans certaines versions, il y a même des chiens ou des porcs qui attaqueraient à son cadavre. Alors tout ça, il faut tenir dans l'esprit toutes les topoïdes de la géographie, comme quoi, donc, on trouve dans le monde chrétien, mais on trouve aussi, bien entendu, dans le monde musulman, qu'un homme saint ne pourrit pas, au contraire, son cadavre sent bon, ça sent la rose, ça sent le musc, etc. Donc, toute cette polémique, c'est pour, encore une fois, insister lourdement sur le fait qu'il c'est un homme diabolique et non pas un homme de Dieu.
Et donc, la meilleure preuve, sont la putréfaction et la puanteur de sa dépouille mortelle. Et voilà que petit à petit, me semble-t-il, l'affaire n'est pas encore gagnée, mais l'inflexion se fait avec Nicolas de Cuse, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Nicolas de Cuse qui écrit quelque chose qui s'appelle
Le Coran tamisé,
dans lequel il cherche dans le Coran des preuves du christianisme, des choses, des éléments positifs, et il présente Mahomet comme un réformateur, quelqu'un qui a amené son peuple de l'idolâtrie au monothéisme, et qui certes n'était pas un homme parfait, il est assez critique sur certains éléments de la carrière de Mahomet, mais c'est la première fois qu'on trouve un bilan plutôt positif du prophète. Ce n'est pas qu'un charlatan, c'est un homme inspiré, c'est un homme qui veut faire du bien, c'est un homme avec ses faiblesses, certes, mais c'est un bilan plutôt positif. Et ensuite, on passe, évidemment, bon, dans les siècles suivants, c'est la guerre de religion en Europe, et l'islam est impliqué ensuite par des auteurs protestants et catholiques dans la polémique interchrétienne. Et on a un certain nombre d'auteurs protestants qui vont dire que finalement, l'islam, certes, c'est l'erreur, mais le catholicisme, c'est bien pire. Comme disait Luther, le diable du pape est plus grand que le diable du turc.
Oui, on va y arriver petit à petit. Ma question à propos de Nicolas de Cuse dans son Cribaldo al Corani, hein, c'est le fameux Coran tamisé. Qu'est-ce qui l'avait poussé à écrire ainsi une probité intellectuelle? On est déjà un peu dans l'honnête homme de la Renaissance ou simplement voulant instruire à charge ou à décharge l'affaire du prophète des morts, comme on disait à ce moment, le pseudo-prophète des morts?
Ouais. Mais là, on est dans un contexte où il y a un échange vif entre différents intellectuels européens de l'époque. Il faut mettre ça dans le contexte. Évidemment, 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans, la peur que les Ottomans s'engouffrent ensuite dans l'Europe, ce qui ne manque pas de se faire. Et donc, il y a des appels à de nouvelles croisades. Et pour Nicolas de Cuse, il faut une autre approche, et notamment, il faut une autre compréhension. Il appelle dans une autre œuvre, une espèce de dialogue de sages entre hommes de différentes religions pour essayer de trouver une vérité religieuse qui dépasse tous nos particularismes. Une vérité religieuse que des hommes sages, juifs, chrétiens, musulmans, hindous, puissent reconnaître. Alors évidemment, lui, du point de vue chrétien, c'est une vérité en fin de compte chrétienne, mais il y a quand même cette volonté.
Oui. Et, bon, maintenant nous arrivons comme ça sur la fresque des siècles au prophète des Turcs, parce qu'à un moment donné, Turc, Sarrasin, mort, musulman, c'est quasiment interchangeable. Mais de toute façon, c'est le Turc maintenant.
Oui, oui, parce que effectivement, c'est les Ottomans qui font peur. Ces Ottomans qui sont présents au cœur de l'Europe. Et donc, à la fois, cette Mahomet devient un repoussoir. Et quand on regarde, comme j'ai fait l'iconographie à propos du prophète, tout d'un coup, on présente Mahomet comme un ottoman, comme un sultan ottoman. Et Mahomet et les hommes de son entourage sont habillés en ottoman.
Il est enturbané.
Oui, tout à fait. En même temps, il y a évidemment la grande division au sein de l'Europe qui est le protestantisme contre le catholicisme, cette guerre de religion où on va mobiliser en quelque sorte l'islam comme un argument à plusieurs titres. Même à l'intérieur de l'Église catholique, on va utiliser le prophète parfois de manière positive. J'ai quelques pages sur la querelle l'Immaculée Conception où, pour simplifier, en gros, les franciscains étaient pour cette doctrine de l'Immaculée Conception, comme quoi la Vierge n'a pas connu le péché originel, mais qui aurait été conçue sans péché. Les dominicains étaient contre. Ça a devenu doctrine officielle de l'Église, finalement, au 19e siècle. Mais on trouve un hadith de Bukhari.
Et même de muslim.
Oui, même de muslim, effectivement, qui dit que il n'y a pas d'homme que le diable n'ait pas touché, sauf Jésus et sa mère.
Au moment de la naissance de
oui,
l'homme.
Oui, oui, tout à fait. Au moment de la naissance, voilà. Et on interprète ça comme une confirmation de la doctrine de l'Immaculée Conception. Même si, évidemment, l'Immaculée Conception, c'est complètement étranger à l'islam parce qu'il n'y a pas de péché originel. Mais bref, donc, on utilise ce hadith comme preuve supplémentaire, à côté de tous les écrits de différents théologiens catholiques de cette doctrine de l'Immaculée Conception, et à même des retables dans lesquels on voit tous les docteurs de l'Église avec leurs écrits sur l'Immaculée Conception qui entourent la Vierge Marie. Et en bas, dans un coin, on trouve Mohammed, Mahomet avec son Alcoran. Donc, on peut donner une image, dans ce cas, franchement positive, de prophète, mais c'est surtout toujours utilisé dans des querelles internes.
Oui, et ça montre aussi la connaissance maintenant, non seulement du Coran, mais même des textes seconds, puisqu'on parle de recueils de hadiths, d'aphorismes ou de maximes. Là, nous avons cité, vous et moi, Al-Bukhari et Muslim, qui sont considérés comme ceux qui ont authentifié les paroles prophétiques, quoique le débat de nos jours porte aussi sur ces mêmes recueils. Et donc, en progressant, il y a certains auteurs, je songe particulièrement, mais pas uniquement, à Michel de Servet, qui était plutôt dans une vision positive de la figure prophétique. Il l'a payé de sa vie.
Oui, Michel Servet, donc, qui est un Catalan, un intellectuel, un médecin, qui connaissait sans doute des Moriscos, c'est-à-dire des descendants de musulmans convertis au christianisme dans sa Catalogne natale. Il est devenu fervent opposant à la doctrine de la Trinité. Pour lui, c'est une doctrine tardive, inventée par des hommes d'Église au IVe siècle, et pas du tout la doctrine que Jésus aurait enseignée. Et donc, il s'inspire, entre autres choses, de sa lecture du Coran, cette fameuse traduction du Coran par Robert Eketon, qui est ensuite publiée à Bâle en 1543. Et il s'en inspire pour trouver des arguments contre la Trinité. Il est condamné à mort par l'Inquisition de Vienne, voilà, au bûcher. Il s'échappe de Vienne, donc on le brûle en effigie avec ses livres. Ensuite, il se rend à Genève, où il débat contre Calvin.
On le reconnaît d'abord,
oui.
Et après il fait ce débat avec Calvin.
Oui, tout à fait, et on le condamne à mort. Il est tué, donc brûlé vif sur une pile de ses livres, pour avoir nié la Trinité.
Je ne veux pas entrer dans un détail scabreux, mais malheureusement, ce jour-là, il a plu. Et donc, le bois étant encore humide, ça a mis davantage de temps. Et on dit que ces souffrances atroces ont pris plus de temps qu'il en faut. Certains parlent d'une demi-heure. Et ça a provoqué aussi un tollé chez les humanistes en disant « Ce n'est pas en brûlant quelqu'un qu'on défend une religion, c'est... » Il faut prendre l'exemple du Christ lui-même qui s'est laissé, lors de sa passion, mourir pour racheter les péchés de l'humanité, selon la vision de l'époque et même peut-être de maintenant chez certains.
Ça montre à quel point le fanatisme n'était pas uniquement catholique, que c'était bien partagé de côté d'autre.
Oui, si vous voulez bien, John Tolan, passons maintenant un peu plus au nord ou au nord-ouest, et tout particulièrement en Angleterre, la figure du prophète de l'islam s'apparentait plus ou moins, peut-être en forçant un peu le trait, à une sorte de révolutionnaire républicain.
Absolument. Donc, ça est dû d'abord à une coïncidence de l'histoire. En 1649, il y a la grande révolution anglaise, avec la mise à mort, les décapitations du roi Charles Ier, l'arrivée au pouvoir du Commonwealth avec Oliver Cromwell, et quelques mois après l'exécution de Charles Ier, il y a la première traduction anglaise du Coran qui est publiée. Et le Parlement voulait à un moment arrêter cette publication. Elle n'était pas sûre qu'il fallait publier ce livre hérétique, disait-on. Et le traducteur d'écrire une préface, donc finalement c'est traduit, le traducteur d'écrire une préface justifiant cette traduction. Et le traducteur était clairement un royaliste qui n'osait pas à le dire franchement, mais dans sa préface, dans laquelle il donne une petite biographie du prophète, il présente le prophète comme un charlatan, si vous voulez, ça c'est de bonne guerre, c'est traditionnel, mais surtout comme un rebelle contre le pouvoir authentique, le pouvoir légitime. Il serait arrivé au pouvoir en libérant les esclaves, comme certains de nos jours. Donc, en gros, sans le dire, c'est assez clair que pour lui, Mahomet, c'est Cromwell, ou plutôt Cromwell serait à nouveau Mahomet. Ces hommes radicaux qui libèrent les esclaves et laissent déferler sur la bonne société tout ce bas peuple. Donc, en quelque sorte, en négative pour ce royaliste, Mahomet, c'est une figure du pouvoir du peuple quand on le laisse s'exprimer de manière libre. Et ensuite, il y aura un auteur, Henry Stubb, en 1671, une fois que la royauté est restaurée, qui écrit une biographie du prophète. C'est vraiment la première biographie tout à fait positive du prophète, où le prophète est présenté comme un grand réformateur qui arrive, qui voit que l'Église est corrompue, que les moines et les clercs ont accaparé le pouvoir, que ils gardent le peuple en superstition et en peur pour justement asseoir leur propre pouvoir. Et que fait ce Mahomet? Il abolit les superstitions, il abolit les doctrines irrationnelles comme la Trinité, il abolit des pratiques comme le culte des saints, etc. et réinstaure une relation directe entre Dieu et son peuple. Et c'est une libération à la fois théologique mais aussi politique.
À côté d'Henry Stubb, qui a, dans une approche plutôt objective, fait cette biographie positive, il y a un autre, bon, je ne résiste pas et j'avoue que c'est facile, un autre, c'est John Toland.
Oui.
Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que à une lettre près, c'est quasiment votre homographie ou homonymie. C'est, pour une fois, je vais parler en anglais, je dirais un free thinker. Donc c'est le premier libre penseur, dit-on. Et lui aussi, ça va dans le sens d'Henry Stubb dans cette appréciation de la figure prophétique.
Oui, tout à fait. John Toland trouve un manuscrit en italien d'un livre qui s'appelle l'Évangile de Barnabé. Alors l'Évangile de Barnabé, qui serait visiblement un texte écrit par des Moriscos.
À Istanbul.
À Istanbul, en italien,
chassé, oui.
Voilà. Mais qui se présente comme l'évangile écrit par Barnabé, un des apôtres de Jésus, dans lequel Jésus prévoit l'arrivée du prophète Mohammed, Mahometto dans le texte, qu'il présente comme le Messie. Et ce texte est clairement fait pour expliquer le rejet donc d'un certain nombre de doctrines chrétiennes comme la Trinité, comme l'incarnation, etc. Donc John Toland affirme que ce texte correspond au vrai évangile bien plus que les quatre évangiles canoniques. Il correspondrait davantage donc aux enseignements de Jésus, ce qui pour lui montre que la théologie catholique et protestante, ainsi que le pouvoir des églises catholiques et protestantes, se base sur des mauvaises fondations, ce qui va créer évidemment un tollé en réaction à ces écrits.
Thank you.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur John Tolan, sans le D, grand historien, professeur d'histoire à l'Université de Nantes et chercheur dirigeant le projet international voulu par le Conseil européen de la recherche à propos notamment de la place du Coran dans la culture européenne. Mais aujourd'hui, nous parlons davantage de la réception et des figures et des représentations de la figure prophétique de l'islam. Nous évoquions l'évangile de Barnabé. Vous savez, professeur Tolan, que même de nos jours, chez certains théologiens musulmans, dans leurs querelles, parfois le mot querelle est un doux euphémisme avec leurs interlocuteurs chrétiens, ils disent que c'est l'évangile de Barnabé qui est véridique. Ils oublient peut-être sa fabrication, si je puis dire, tout à fait au début, mais en tout cas au tournant du XVIIe siècle, ou à la fin du XVIe, dans l'Empire ottoman. Si on progresse petit à petit dans le temps, nous arrivons aux Lumières, à l'héritage de l'Aufklärung. Comment, cette fois-ci, la figure prophétique est-elle reçue? Bon, nous connaissons tous l'histoire du fanatisme mis en scène ou en pièce par Voltaire, une première fois, puisqu'il se rattrapera une seconde fois. Qu'est-ce qui, selon vous, John Tolan, a fait changer d'avis Voltaire?
Mais, entre autres, il a lu le Coran dans la traduction. Comme vous savez, Voltaire a passé du temps à Londres. Et là, il a lu, entre autres choses, alors il présente la société anglaise comme modèle de la tolérance religieuse, parce que chaque communauté peut vivre selon ses croyances, peut aller au paradis dans le chemin qu'il choisit, et c'est à Londres qu'il rencontre cette traduction du Coran par George Sale. Alors George Sale, c'est quelqu'un qui avait lu John Tolan, entre autres, qui avait lu le travail des orientalistes récents du 17e, 18e siècle, et qui fait, donc c'est la première traduction européenne du Coran, dans laquelle, parce que il y avait toutes ces traductions en latin, dans d'autres langues européennes par le passé, mais
à
toujours...
À partir de l'édition de Théodore Bibliander.
Oui, oui, la traduction de ce fameux Robert de Ketton, qui est repris par Bibliander en 1543, qui est ensuite traduit en italien, d'italien en allemand, etc. Parfois, il y a des traductions directes de l'arabe, comme de Dreyer en français. Mais dans toutes ces traductions, on met une préface où on dit que c'est un livre hérétique, que Mahomet est un charlatan, un hérétique, etc. Jusqu'à George Sale en 1734, où il n'y a pas de tout ça. Au contraire, il y a une introduction de 200 pages dans laquelle il essaie d'expliquer donc la carrière de prophète, le développement de l'islam, de manière tout à fait libre de ses visées polémiques. Bien au contraire, comme Stubb et Tolan, il présente l'islam comme une réforme, renouement avec le monothéisme primaire qu'avait enseigné Jésus, et donc Mahomet serait un grand réformateur. Et c'est à l'encontre de cette lecture que Voltaire va changer d'idée. Et effectivement, si on regarde par exemple son essai sur les mœurs, Mahomet certes n'est pas une figure à 100% positive, mais c'est un réformateur. Et finalement, bon, le but de Voltaire, c'est d'écraser l'infâme, de se battre contre le fanatisme. Au début, il a fait en présentant Mahomet comme figure de fanatisme. Ensuite, elle a compris que c'est encore mieux d'utiliser Mahomet comme réformateur contre le fanatisme chrétien. Et donc Voltaire le fait, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul. Il y a d'autres auteurs qui vont présenter Mahomet comme un grand réformateur dans le but de critiquer la place de l'Église dans la société chrétienne et le pouvoir de l'Église, notamment en France.
John Tolan, je l'ai perçu dans votre ouvrage, mais on le dit, nous essayons d'être un peu prudents. Est-ce que des auteurs comme John Locke ou même Hobbes, à propos de ce qu'on appelait à l'époque et continue à appeler la tolérance, même si pour Claudel, il y a des maisons pour cela et donc il faut exiger quelque chose de beaucoup plus que la simple tolérance, il y avait aussi une allusion, notamment ce qui prévalait dans l'Empire ottoman, y compris le comportement du prophète ou pas.
Oui, absolument. On trouve cela déjà chez Voltaire dans un petit ouvrage peu connu qui est le dialogue d'un honnête homme. Cet honnête homme va à Alep, il rencontre un moine grec. Il parle évidemment, le moine grec essaie de convaincre de la vérité du christianisme. L'honnête homme, qui semble être plus ou moins l'incarnation de Voltaire, est très sceptique. Mais à un moment, on parle de la persécution et le moine grec dit qu'il déteste la persécution et dit heureusement que ici les Turcs, nos maîtres, ne persécutent personne mais laissent chacun à pratiquer la religion qu'il ressemble. Et l'honnête homme de répondre qu'on puisse tous être comme les Turcs. Oui. Donc c'est un exemple parmi d'autres où même si évidemment il y avait beaucoup de les Ottomans inspiraient beaucoup de craintes, beaucoup de rejet, il y a aussi cette image de l'Empire ottoman comme un espace de paix où règne la tolérance.
En tout cas, il y avait cette approche ambivalente à la fois l'appréhension, la crainte et la peur et en même temps une sorte d'admiration, de fascination pour ce qui se passait à l'intérieur même du territoire de l'Empire. Poursuivons ensemble, John Tolan, si vous voulez bien, puisque nous nous approchons du terme de l'émission, il y a cette rencontre entre Napoléon Bonaparte et Goethe. Et là, d'abord, Goethe, qui était admirait bien l'œuvre de Voltaire, ne comprenait pas sa première œuvre sur le fanatisme. Et aussi, il y a eu cet échange avec Napoléon à propos de la figure du prophète de l'islam.
Oui, et à un moment, parce que Goethe avait fait comme œuvre des commandes, il avait traduit le fanatisme Mahomet ou le fanatisme de Voltaire en allemand. Il a quelque peu radouci la figure de Mahomet, mais c'est quand même un portrait négatif. Et quand Napoléon apprend qu'il avait traduit ça, il se fâche en quelque sorte, il dit « mais c'est une très mauvaise pièce ». Et il va jusqu'à dire que Voltaire donc a pris Mahomet, ce grand homme qui avait changé la face de l'histoire et a fait de lui un petit criminel digne au plus du gibet. Il dit, mais c'est pas étonnant, Voltaire, c'était un petit esprit qui comprenait pas les grands hommes.
Lors de sa campagne d'Égypte, c'était de bonne guerre et puis il faisait de la politique, il voulait subjuguer notamment les Égyptiens. Il disait, si je devais être mahométan, je le serais. Oui. Parle de Napoléon.
Oui, absolument. Il essaie, effectivement, c'était de la bonne politique, il essaie de convaincre les Égyptiens qu'il était ami de l'islam, qu'il respecte le prophète. Il a même, il était là pour au Caire pour le Maulid al-Nabi, l'anniversaire du prophète. Les muftis et les oulémas égyptiens n'étaient pas n'avaient pas beaucoup envie de festoyer alors que les infidèles étrangers occupants étaient là, mais Napoléon a insisté, il voulait payer donc pour les festivités et il voulait l'utiliser pour marquer, pour montrer au peuple égyptien qu'il respectait le prophète. Et donc, comme il y a des descriptions des officiers français qui sont assez ironiques, sur ce mélange entre danse de soufis et marche militaire de l'armée française, et comment les troupes françaises saluent le prophète de l'islam. Donc, il se faisait appeler Ali Bonaparte. Et donc, il y a cette idée de rattachement à la figure de prophète. Et tout ça, évidemment, pour des raisons intéressées. Mais même après, donc après, à la fin de sa vie, quand il est exilé à Sainte-Hélène, il écrit ses mémoires, il revient sur la figure de prophète, qu'il présente vraiment comme un modèle. Il défend le prophète des accusations des Européens. Et on voit, c'est surtout, et c'est pas la dimension religieuse qui l'intéressait tellement, c'est le grand homme. Le grand homme, le grand législateur, le chef militaire, l'homme qui savait remuer les masses, qui savait inspirer le peuple. Et en tête, quelque sorte, le Mahomet de Napoléon ressemble étrangement à Napoléon lui-même, mais à Napoléon qui aurait mieux réussi.
Oui, et puis à travers tout ce que nous avons dit, il y a par moments l'idée que ce serait, même si on remonte jusqu'à l'Empire romain, à Thésée ou et l'Égérie de Numa, etc., qui a collé à la figure du prophète de l'islam. Et peut-être nous pourrions finir avec un Thomas Carlyle ou Alphonse de Lamartine ou Victor Hugo dans leur appréciation du prophète de l'islam.
Oui, on trouve chez ces auteurs et d'autres auteurs du 19e siècle, de mouvement de romantique, ce grand respect pour la spiritualité du prophète. Victor Hugo, notamment, a écrit ce poème « L'an neuf de l'Égire » qui met en scène la mort du prophète, et il présente Mahomet comme un homme admiré et aimé par ceux qui l'entourent, qui un homme simple qui trahit ses propres brebis, qui cousait ses propres habits, qui donnait l'aumône lui-même de ses propres mains aux pauvres qui l'entouraient. Et il présente sa mort comme une mort exemplaire. Et on trouve chez Lamartine ce même genre d'idée. Et Lamartine essaie d'expliquer, alors sans croire qu'il était vraiment inspiré par Dieu, Lamartine affirme qu'il était un illuminé de bonne foi, c'est-à-dire qu'il aurait souffert de l'épilepsie comme Jules César, comme ces grands hommes qui pensent beaucoup, et qu'il aurait créé, il aurait eu des visions qu'il a interprétées comme venant de Dieu. Et donc ces interprétations, ces révélations qu'ensuite il aurait transmis, il aurait traduit en quelque sorte dans les révélations du Coran. Donc il y a à la fois ce refus de voir la mission de Mahomet comme venant de Dieu, mais cette idée qu'il était de bonne foi et qu'il était comme un modèle spirituel.
Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur Tolan. C'était un grand plaisir de vous accueillir.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Question d'islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bernard Laniel. La réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lila.